Attention, et maintenant, tous ensemble.
Vous venez avec nous?
Allons.
Bien sûr, l'aventure continue.
Maintenant, je fonce, Alphonse.
Ah, c'est bien, alors allez, on y retourne.
Ce n'est un secret pour personne, la mafia en Italie est une des plus puissantes au monde, ou plutôt les mafias, la Cosa Nostra en Sicile, la 'Ndrangheta en Calabre ou encore la Camorra à Naples. Elles ont inspiré bien des romans et des films, mais quelle est la réalité de ces organisations criminelles? À quel point sont-elles nocives et dangereuses? Et comment le reste de la population cohabite-t-il avec elles? Pour tenter de démêler les tentacules de la pieuvre, nous avons invité deux hommes qui chacun de leur côté se sont intéressés aux mafias italiennes. Le premier est universitaire, Jacques de Saint-Victor, historien. Il dirige le cours Crime organisé au CNAM et a écrit Un pouvoir invisible chez Gallimard. Le second est journaliste, vous le connaissez, c'est Éric Valmire, chef du service reportage à France Inter. De 2006 à 2012, il a été le correspondant de Radio France à Rome et au Vatican et il a consacré plusieurs reportages à la mafia. Tous deux vont nous emmener bivouaquer en eau trouble à la découverte des mafias italiennes. Il est des bivouacs dont on se réjouit qu'ils ne soient que virtuels. Et puis en fin d'émission, nous découvrirons une nouvelle séquence avec Pierre Josse, autoproclamé traîne savate planétaire. Nous verrons ce que lui a inspiré notre sujet du jour. Voilà pour le programme de la deuxième partie de notre bivouac.
Je vous en prie, respect, Don Miguel.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ils l'ont abattu, ces salauds.
C'était qui?
Mon frère Nino. Oh, ils me l'ont tué.
Qui a fait ça?
Comme d'habitude, Bella Fior.
Pourquoi il a fait ça? C'est pas ses terres.
Si, mais nous, ça fait 30 ans qu'on les cultive. Et aujourd'hui, il veut nous chasser. On a même été trouver les gendarmes.
Eh ben, t'as peur de rien.
Je sais, Don Miguel, on aurait peut-être pas dû. Parce que tous ces sales flics, ils ont rien fait du tout.
Ça fait 30 ans qu'on est là, nous. Et si on s'en va pas, il nous abattra tous comme des chiens.
Extrait de La Sicilienne, un film de Marco Amenta. La réalité des mafias en Italie, est-ce qu'elle est loin de ce que l'on aperçoit dans tous ces films de fiction qui nous donnent à voir un certain visage de la mafia, Jacques de Saint-Victor?
Bah, ça dépend des films. Il y a des films qui sont très très loin de la réalité, puis il y en a d'autres qui essayent de coller beaucoup plus à cette réalité. Disons que c'est quand même très difficile de rendre compte de cette réalité criminelle, à la fois parce que elle est parfois bien plus horrible que ce qu'on peut montrer à la télévision ou au cinéma, et en même temps, pour l'essentiel, elle est beaucoup plus ennuyeuse que ce que on peut autoriser dans le cinéma. Donc l'un dans l'autre, on est obligé, notamment dans des séries et autres, à jouer un peu sur les éléments dramatiques classiques du théâtre ou du cinéma, ce qui oblige forcément à biaiser un peu avec la réalité criminelle. Mais enfin, on est maintenant quand même très loin de cette exaltation de la grande époque du Parrain ou autre, ouais. Là qui était totalement, c'était magnifique, c'était des films absolument magnifiques, mais ouais. Évidemment qui nous rendent une idée complètement absurde, ouais. Et fausse de l'histoire
beaucoup
mafieuse,
trop romanesque, ouais, de cette, ouais, histoire. Éric Valmire, quand vous êtes arrivé en Italie en 2006 pour devenir correspondant pour Radio France, qu'est-ce que vous saviez de la mafia italienne et est-ce que sur place l'image que vous en aviez a évolué?
Forcément, parce que quand on travaille seulement sur documentation, on n'a pas la réalité du terrain. Et puis on est quand même, quoi qu'on en dise, toujours influencé inconsciemment par le côté mythifié de la mafia. Vous l'évoquiez avec Le Parrain, quand on a une culture cinématographique où moi j'ai grandi effectivement dans mon adolescence avec ça, avec les codes d'honneur. Il n'y a aucun code d'honneur dans la mafia, c'est dégueulasse la mafia. Il faut arrêter d'en faire un objet qui soit beau, avec des droits, avec « ah, mais on travaille sur l'honneur ». Mais non, non, il n'y a pas de règle, quoi. C'est la règle du plus fort qui va écraser le plus faible. Ouais. Cette idée, par exemple, qu'on pouvait voir dans Cosa Nostra, qui est on va défendre l'opprimé, qui est souvent quelque chose qui revient dans la mafia. Non, on écrase l'opprimé. Ouais. La mafia ne vient pas défendre l'opprimé ou le plus pauvre. Elle n'est pas à la cause du peuple, comme souvent on peut le dire. Cette dimension-là, je ne l'avais pas et je l'ai très vite trouvée. Oui.
Ouais. Jacques de Saint-Victor, les mafias italiennes sont parmi les plus connues du grand public. Est-ce que ça veut dire qu'elles sont les plus puissantes?
Bah, elles sont aujourd'hui très concurrencées parce qu'avec la mondialisation, ce modèle mafieux, si on peut dire, les juges italiens disent il y a une méridionalisation du monde, puisqu'on voit que ça a explosé, notamment depuis la chute du mur. On l'a vu à l'Est, où on ignorait ce phénomène mafieux, il a explosé. On le connaît très bien dans le monde asiatique aujourd'hui. Bon, aux États-Unis, la Cosa Nostra américaine n'est au départ qu'une filiale de la Cosa Nostra sicilienne. Donc, ce qu'on peut dire simplement, c'est que les mafias siciliennes, les mafias italiennes d'ailleurs, au sens large, elles ont une antériorité très grande par rapport à toutes les autres mafias occidentales.
Mmh. Elles ont vu le jour quand, alors, les mafias italiennes ?
Alors, bon, il y a beaucoup de mythes, comme l'a précisé Eric, il y a beaucoup de mythes autour des mafias. La réalité historique qu'on peut vraiment essayer d'individualiser, c'est au début du 19e siècle. En fait, c'est lié à un phénomène qui, dans le sud de l'Italie, et que nous avons vécu beaucoup plus tôt en France ou en Angleterre, c'est une rupture entre un monde féodal qui était tardif, qui continuait à exister dans le sud de l'Italie, et l'arrivée d'un marché capitaliste extrêmement brutal. Et ça a créé, exactement comme en Russie, juste après la chute du mur, une sorte d'appel d'air pour des entrepreneurs de la violence. Et c'est comme ça que s'est mis en place, en réalité, le phénomène criminel mafieux en Italie du Sud. Donc c'est assez récent, si on veut, par rapport à la mythe, au mythe que veulent faire croire les mafias qui se réclament d'un passé très ancien, notamment d'un passé médiéval, parce que justement, les organisations mafieuses, comme vous précisez, c'est vraiment des organisations uniquement prédatrices, mais contrairement à des organisations gangstéristes, style gang corso marseillais, elles ont besoin, pour des raisons complexes, elles ont besoin de se créer une mythologie. Ouais. Et cette mythologie, il ne faut pas la négliger, elle est très importante, elle a été très importante notamment pour fédérer un consensus mafieux. Car c'est la mafia repose, et c'est la différence avec les gangs, enfin avec certains gangs en tout cas, la mafia repose sur l'idée qu'elle va trouver une adhésion forcée, mais en même temps parfois pas complètement forcée, dans le bassin local où elle opère.
Est-ce qu'une des particularités de la mafia, ça n'est pas non plus son infiltration dans le pouvoir, dans les sphères du pouvoir ? Est-ce qu'il n'y a pas la différence entre une organisation criminelle autre, classique, et la mafia, Eric Valmire ?
C'est sa raison d'être. On parle, ça me fait toujours sourire quand on parle de la mafia des cols blancs, c'est la seule qui existe.
Ouais.
Quand la mafia tue, quand la mafia est violente, c'est qu'elle est acculée. La mafia, elle préfère qu'on ne parle pas d'elle. Ouais. Là où elle est la plus forte, c'est quand on n'entend jamais parler d'elle. Ouais. Parce qu'elle fait son business, elle infiltre, elle infiltre, c'est ça, les administrations publiques, les cercles de pouvoir. Mais elle ne fait qu'infiltrer. Prenez l'exemple d'un fruit. Si le fruit est pourri, vous n'en faites rien. La mafia a besoin d'un appel d'air, d'un organisme sain dans lequel l'argent va circuler. Et donc, il ne faut pas trop infiltrer. Il faut infiltrer juste ce qu'il faut pour profiter du système.
D'ailleurs, la moins connue, en tout cas celle dont moi j'avais entendu le moins parler, c'est la 'Ndrangheta, qui est donc la mafia
de Calabre.
Oui. Et c'est elle la plus puissante
aujourd'hui. C'est celle qui est la plus puissante, mais pour des raisons historiques. C'est-à-dire que la mafia sicilienne a été la plus puissante jusqu'au milieu des années 90. Elle a fait l'objet, à cause de sa volonté justement de toute puissance, d'hubris, d'aimant. À un moment, elle a voulu se comparer à l'État, rivaliser avec l'État. Elle a assassiné, rappelez-vous, non seulement le juge Falcone et le juge Borsellino, mais elle a aussi assassiné, 10 ans auparavant, le préfet d'Alla Chiesa. Ouais. Donc, il y avait une véritable volonté d'hégémonie. Totorina, qui était le chef de cette mafia, disait « l'État en Sicile, c'est moi ». Bref, cet excès de volonté de puissance a fait qu'elle est sortie du cadre classique d'infiltration qui est, je suis absolument d'accord, l'un des éléments clés de la réalité du pouvoir mafieux. Et j'irai plus loin, enfin j'irai tout à fait dans le sens d'Éric Vallée. Il faut bien comprendre que la mafia n'est puissante que justement là où elle est la moins visible, c'est-à-dire quand elle ne commet pas de crime. Ouais. Et le paradoxe, c'est par exemple, on a beaucoup parlé en France de la série Gomorra, etc. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle, dans le vieux langage criminologique, c'est de la basse mafia. C'est pas ça qui est le plus intéressant. Parce que ça, au fond, c'est pas loin des gangs classiques, si vous voulez. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est les phénomènes et les techniques d'infiltration du pouvoir.
Alors, vous nous disiez, Eric Valmire, que le côté code de l'honneur, tout ça, c'est de la poudre aux yeux et ça n'est bon que pour les films. Finalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un repenti. Il s'appelle Gaspare Mutolo. Il a été interviewé pour le 13h de TF1 en 2014.
J'ai tué, j'ai séquestré, Je faisais des trafics divers et variés. J'étais fier d'appartenir à la mafia à l'époque. Mais quand j'ai vu qu'elle ne respectait plus nos règles, nos valeurs traditionnelles, quand on a commencé à toucher aux femmes et aux enfants pour frapper nos cibles, j'ai voulu en sortir. Je n'ai pas le sentiment d'avoir trahi qui que ce soit, car de toute façon, je ne me reconnaissais plus dans cette mafia-là.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu, à une époque, des valeurs, ou est-ce que ça veut dire que ce repenti habille son choix de repenti?
C'est une rhétorique classique depuis à peu près le milieu des années 80, où a commencé le phénomène des repentis. Bouchette, qui était le plus grand repenti de l'histoire mafieuse, lui aussi disait « Ah bah avant, dans la vieille mafia, c'était avec un code d'honneur, etc. » Et je souscris parfaitement ce qui a été dit, c'est-à-dire que non, c'est complètement faux. Quand on regarde l'histoire, l'honneur a toujours été instrumentalisé, ça c'est vrai. Il y a eu un code d'honneur, on peut même trouver des codes mafieux, vous savez. Ouais. C'est, les Italiens sont très très bizarres, ils ont une sorte d'amour de la codification. Donc il y a des codes mafieux qui sont des codes quasiment comme des codes civils ou des codes pénaux, parallèles au code officiel. Mais évidemment, ce sont d'abord, la plupart du temps, des codes extrêmement frustes, puisque c'est la peine de mort à chaque fois, donc ça, c'est pas très intéressant. Et puis surtout, c'est évidemment inutile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable honneur. L'un des éléments, par exemple, le plus frappant, on vous parle toujours d'omerta, qu'il y aurait une omerta, etc. C'est pas vrai du tout, depuis l'origine, il suffit de regarder dans les archives, les mafieux ne cessent de parler à la police. Mais évidemment en cachette, pour pouvoir par exemple dénoncer le clan adverse, pour pouvoir se débarrasser de personnes qui les dérangent. Donc en réalité, cette omerta, elle existe parce que elle est liée à la peur. On fait peser l'omerta sur la zone que l'on dirige, mais en réalité, les mafieux entre eux n'ont aucun code d'honneur, aucune omerta, rien de tout ça.
Et quel rapport entre les différentes mafias? On l'a vu, il y a la sicilienne, il y a la calabraise, il y a la napolitaine. Est-ce qu'on s'entend entre mafias? Est-ce qu'on se fait la guerre entre mafias, Éric Valmire?
C'est pas les mêmes raisons d'être. Vous avez une qui est rurale, qui est Cosa Nostra, et il y en a une qui est urbaine. La Camorra, elle est née en fait sur... j'allais dire sur le développement, comme le disait très bien, capitaliste en fait. C'est-à-dire quand Naples a commencé à s'étendre sur un point de vue immobilier, la reconstruction au lendemain de la guerre notamment, là aussi il y a eu un coup porté, une croissance qu'a connue la Camorra à ce moment-là, et qui a grandi après le tremblement de terre en 1980, qui avait totalement ravagé la région napolitaine, où là d'un seul coup, les gens se sont retrouvés dans le besoin, où la Camorra a étendu son empire, notamment sur l'immobilier.
On aura l'occasion d'en reparler de ce tremblement de terre, parce que c'est effectivement un exemple assez saisissant. Vous nous dites, ça a grandi, on a l'impression, alors que c'est censé être des organisations criminelles cachées, on a l'impression qu'on sait quand ça s'étend, quand ça diminue. Est-ce qu'on a une idée des effectifs? Est-ce qu'on sait de quoi on parle? Est-ce qu'on a des organigrammes? Enfin, jusqu'où on a la connaissance de ces mafias?
On a des... D'abord, il y a en Italie, depuis début des années 80, il y a toute une direction anti-mafia, donc spécialisée uniquement sur ces questions, qui a quand même beaucoup travaillé, qui est assez efficace. L'Italie, c'est en outre, bon là c'est un peu technique, mais dotée de lois et d'une jurisprudence qui permet d'aller très loin dans la recherche de ces infiltrations mafieuses, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, d'un pays comme la France. Donc il faut bien comprendre que l'Italie, c'est un modèle d'un point de vue-là. Hein. Et c'est aussi pour ça qu'on sait beaucoup de choses sur l'Italie. Ouais. C'est un paradoxe, d'ailleurs, parce que les Italiens sont un peu énervés. Les juges italiens disent, bah oui, on parle que de mafia en Italie, mais en même temps, il y a d'autres pays où on pourrait en parler et personne ne sait très bien de quoi on parle.
Vous dites, Eric,
la Riviera, chez nous. Ouais.
Mais je voudrais juste rajouter pour l'histoire des joint ventures qui peuvent arriver ou autres entre différentes organisations italiennes mafieuses, comme d'ailleurs avec d'autres organisations mafieuses. Il faut bien comprendre, c'est un peu comme dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire que vous êtes en concurrence, mais vous pouvez tout d'un coup avoir envie de réaliser un accord pour tel ou tel objectif. Mmh. Et donc, on a vu des choses très, très intéressantes dans les procès qui ont eu lieu, notamment dans les années 80-90. On a vu, par exemple, des joint ventures d'assassinat. C'est-à-dire que, par exemple, la mafia sicilienne avait besoin d'assassiner tel ou tel juge. Elle demandait à la mafia calabraise de le faire parce que ce juge, par exemple, avait une villa sur le territoire de la Calabre. Comme ça, on croyait que ça allait être évidemment un assassinat à cause de la mafia calabraise. Donc, on ne comprenait pas la raison. Et les mafias siciliennes restaient plus ou moins, disculpé, ou en tout cas, ça ralentissait le processus d'enquête. Voilà.
Calabre, Sicile, Naples, derrière les décors de cartes postales se cachent parfois des réalités peu glorieuses. Nous tentons d'explorer l'envers du décor et d'en savoir un peu plus sur ces mafias qui gangrènent l'Italie, le temps d'un bivouac en eau trouble avec Éric Valmire et Jacques de Saint-Victor, jusqu'à 18h sur France Inter.
Cette mélodie qui longe la Seine, du quai des Tournelles à l'île Saint-Louis, je la fredonne et pense à Verlaine, à François Villon, perdu dans la nuit. Mais pour retenir cette ombre qui passe et qui fait semblant de n'être qu'une ombre qui brille et s'efface au fil du courant. Une mélodie des hauts de Belleville, une chanson d'Apache, un refrain d'avant qui n'existe plus que dans les vieux films, quand le paradis avait des enfants. 3h du matin, quand passe le crime sur les marais chauds, le sang et la peur sont dans les vitrines ou les caniveaux. Comme un drap froissé, le ciel se déplie sur la ville grise. Un soleil mouillé réchauffe les eaux de l'académie. L'heure où les poètes sont sur le pavé, c'est la chanson de Paris la grise qui tiendra le jour entre ses deux mains, sur un air venu du temps des cerises, un accordéon en joue le refrain. C'est la chanson de Paris la grise qui tiendra le jour entre ses deux mains, sur un air venu du temps des cerises, un accordéon en joue le refrain.
C'était Bernard Lavillier, Paris la Grise sur France Inter.
J'aime pas Naples. Non, je trouve que c'est une ville magnifique. C'est une ville qui peut donner des choses énormes. Mais il faut être capable de vivre ça. Autrement, c'est une ville qui tue. Parce qu'elle est trop intense, il n'y a pas de nuance. Et si tu n'as pas de nuance, tu es toujours emprisonné. Parce que tu vas d'un côté à l'autre et c'est toujours l'intensité. Donc tu peux exploser un petit peu. Donc Naples, elle est fatigante. Tu es entouré par le monde entier. Tout le temps, tu as les gens autour de toi. Et tu dis, ah! Naples, pour moi, c'est la ville la plus intense que je connais. Et donc la plus dangereuse.
La ville la plus intense et donc la plus dangereuse, description de Naples par l'une de ses habitantes dans l'émission Ville Monde de France Culture. Éric Valmire, vous portez le même regard sur Naples que cette napolitaine?
Ah oui, parce que alors qu'on nous demande pas de résumer en deux phrases ce qu'est Naples, quoi, parce que c'est vraiment impossible. Elle a trouvé en deux mots vraiment quelque chose de très beau qui porte du sens, la plus intense, la plus inexplicable, parce que vous ne pouvez pas la résumer en une vision binaire, qu'elle soit belle ou laide. C'est une somme de complexité, de nuances qui se juxtaposent, qui se contredisent. Il n'y a pas de généralité qui existe à Naples et c'est vertigineux, vraiment vertigineux.
Ah, vous l'aviez fait, hein, décrire Naples en quelques lignes. Je vous lis, je vous cite, Eric Valmire. Naples est l'une des plus belles villes du monde, mais derrière les images de cartes postales, il y a la réalité, le bruit, l'odeur des poubelles qui s'entassent, le bruit des mitraillettes et la télé qui montre en gros plan les taches de sang laissées par la Camorra.
Mais ça, c'est parce que je revenais d'un reportage qui m'avait marqué, d'un reportage sur la crise des déchets avec des gens qui étaient livrés à eux-mêmes dans des quartiers où ils mouraient de cancer parce qu'avec des radioactivités à l'air libre, tout simplement, et que les autorités ne faisaient pas un geste. Quand vous êtes comme ça en contact direct avec la population qui souffre et qui doit souffrir à la fois du manque, du laxisme des autorités et souvent en collusion avec la mafia, forcément, vous en revenez énervé. On peut écrire aussi sous le coup de...
Ah oui, ah, mais c'était pas un proche, au contraire, moi je trouve qu'en quelques lignes, vous nous dépeignez bien une situation.
En fait, c'était une situation vécue dans un quartier. Mais encore une fois, ça ne peut pas être une généralité. Ouais. C'est une micro-particularité de Naples. Comme là, on va parler de la mafia pendant une heure dans l'Italie, sur l'Italie. Effectivement, la mafia est une composante de l'Italie, mais on ne peut pas résumer l'Italie à mafia pizza calcio. C'est toute la complexité de ce pays. C'est toute la complexité de ce pays qui repose sur bien d'autres choses dont on parle rarement. En fait. Ouais.
Jacques de Saint-Victor, à quel point, alors vous nous disiez, pour qu'une mafia prospère, il faut qu'elle soit relativement discrète. Hein. L'image était aussi de vous. Eric Valmire, il faut que le verre soit dans le fruit, mais la pomme pas complètement pourrie, sinon ça fonctionne plus. On a quand même l'impression que Naples est bien endommagée par sa mafia, notamment ne serait-ce que les déchets. Qu'est-ce que c'est que ce trafic de poubelles à Naples ?
Mais pour résumer, Naples, pendant longtemps, justement, on ne considérait pas que la Camorra était une mafia. Parce que justement, elle était faite de gens qui tuaient comme ça, à ciel ouvert, de manière beaucoup trop visible. Il a fallu attendre le rapport de la commission antimafia de 1993 pour qu'on accepte que la Camorra soit intégrée dans les autres mafias. Parce que justement, elle n'est pas du tout discrète, la Camorra napolitaine. Elle est vraiment trop visible. C'est quasi... Je vous dis, ça ressemble en plus violent, et encore maintenant, on pourrait se poser des questions, au gang corso marseillais. Vous voyez, ce n'est pas du tout la mafia sicilienne ou la 'Ndrangheta calabraise, qui sont beaucoup plus subtiles et beaucoup plus fines. Alors, il est vrai qu'avec le temps, notamment dans les années 2000, elle a su, elle aussi, adopter les méthodes des deux autres mafias et elle a réussi, notamment dans le trafic des déchets, à avoir une contamination du territoire au sens à la fois, évidemment, écologique, mais politique, qui lui a permis de monter ce trafic de déchets. C'est très compliqué de vous le résumer, hein, le système du trafic de déchets. J'ai mis un chapitre entier dans le livre que j'ai écrit là sur le pouvoir invisible, parce que c'est là... On est vraiment dans un cas de figure où, paradoxalement, c'est peut-être au départ ce qu'on appelle en Italie la bourgeoisie mafieuse, c'est-à-dire les gens qui n'apparaissent pas comme étant des mafieux, qui ont été à l'origine de ce trafic et qui en ont bénéficié principalement au départ. Et puis, ensuite, la mafia a compris que c'était un trafic extrêmement juteux. Elle l'a de plus en plus investi jusqu'à, évidemment, quasiment le posséder jusqu'à ce que les projecteurs arrivent sur Naples, grâce notamment à Saviano et à d'autres enquêtes qui ont été menées.
Donc Saviano, c'est l'auteur de
Gomorra. Où on parle beaucoup de cette question justement des trafics de déchets, parce que cette partie du nord de Naples a été... profondément endommagé, profondément contaminé par ce trafic, notamment avec les dioxines et autres pollutions terribles du sol. D'un des sols les plus riches d'ailleurs d'Italie au départ, hein, puisque c'est la Campania Felix des anciens Romains, c'était considéré comme une des terres les plus riches d'Italie.
On voit là toute la nocivité de la mafia. Alors elle est très forte cette mafia pour ajouter du malheur au malheur. Autre exemple, plus lointain, mais que je trouve assez édifiant, vous l'évoquiez tout à l'heure, Eric Valmire, nous sommes en novembre 1980 et premier malheur qui n'a rien à voir avec la mafia, la terre tremble à Naples.
Le bilan du tremblement de terre qui a secoué hier soir l'Italie et surtout le sud de la péninsule, ce bilan s'alourdit d'heure en heure. Au moins 350 morts, a dit tout à l'heure le responsable de la protection civile. Il a laissé entendre que le nombre des victimes serait beaucoup plus élevé encore. Il faut dire que les dégâts s'annoncent très importants dans les régions de Naples et de Potenza. Par exemple, à Balvano, un village de 2500 habitants, il y a une centaine de morts.
Jean-Luc Hesse au micro de France Inter. Nous étions le 24 novembre 1980. Le bilan définitif sera de 130 morts, 1500 blessés. À ce stade, la mafia n'y est pour rien, encore une fois. C'est ensuite qu'elle va jouer un rôle dévastateur. Jacques de Saint-Victor ou Éric Valmire, je ne sais pas, qui veut nous expliquer ce qui s'est passé?
Allez, Jacques.
c'est des phénomènes qui aujourd'hui, hélas, sont assez classiques. C'est-à-dire que le tremblement de terre a créé non seulement des centaines de morts, mais surtout beaucoup de personnes qui se sont trouvées sans habitation. Par conséquent, le gouvernement italien de Rome a envoyé des milliards de lire à l'époque dans la région de Naples. Et évidemment, cette manne d'argent, eh bien, elle a été détournée puisque la plupart de ces pauvres gens n'ont jamais retrouvé de maison. Ils vivent encore aujourd'hui, pour certains d'entre eux, dans des sortes de baraquements.
C'est ça qu'il faut. 38 ans après, des familles n'ont pas encore été relogées.
38 ans après, à cause de la mafia, ça n'a pas été reconstruit.
C'est pas que à cause de la mafia, là je peux me permettre, c'est qu'aussi à cause du monde politique. Car le principal détournement des études ont été faites, notamment de la direction anti-mafia, je dirais que c'est presque trois quarts, un quart. En fait. Mais ça a créé ce qu'on appelle un saut de qualité. C'est-à-dire que cette petite camorra urbaine qui était considérée comme vraiment une camorra de gueux, enfin, une basse mafia. Contrairement à la camorra rurale, qui elle est beaucoup plus riche depuis quasiment le début du XXe siècle. Eh bien, cette camorra urbaine, elle a réussi, grâce à cela, grâce à cet argent, eh bien, à devenir une camorra beaucoup plus importante, beaucoup plus influente, et évidemment, du coup, beaucoup plus dangereuse.
Éric Valmire. Et si j'ai voulu laisser Jacques parler de Naples, c'est que moi, je voulais parler d'un autre exemple beaucoup plus récent, qui est celui de L'Aquila. Ben oui. On a exactement les mêmes choses.
Absolument.
En 2009, la terre tremble à L'Aquila. De l'argent est débloqué aussitôt en provenance de Bruxelles, en provenance de Rome. Et qui va s'en saisir? La mafia, qui pleure de joie à cette idée-là. C'est la plus belle catastrophe qui pouvait leur arriver. L'Aquila, aujourd'hui, n'est toujours pas reconstruit. Les entreprises sont parties. Les appels d'offres pour la reconstruction, ce sont des entreprises milanaises, alors qu'elles sont en procès pour collusion avec la mafia qui emporte les marchés et qui vont construire des logements neufs à 30 km de L'Aquila et laissant des familles hébergées dans des hôtels très loin de chez elles. Et une catastrophe qui aujourd'hui n'est toujours pas résolue.
Ouais. On comprend, hein, quand vous nous disiez il n'y a pas de code d'honneur, il n'y a rien de beau là-dedans, c'est vraiment se réjouir de catastrophes pour faire son beurre sur des histoires tragiques.
Un lieu... D'autant plus que les catastrophes créent des obligations de réagir très vite en dehors des codes très protecteurs qu'on a maintenant. Vous savez, on crée à Bruxelles des règles. Mais là, quand on a dans l'urgence, on n'est plus en train de respecter les règles.
On profite de la panique et de l'urgence.
C'est vraiment l'appel d'air.
C'est ça, c'est la gestion de l'urgence, ça devient un marché. Et la protection civile italienne n'a pas été exempte de tout reproche à L'Aquila.
Un lieu stratégique pour la mafia dont nous parlions, hein, la mafia napolitaine, c'est le port de Naples.
Le port. Il n'existe nul produit manufacturé, tissu, morceaux de plastique, jouets, marteaux, chaussures, tournevis, boulons, jeux vidéo, vestes, pantalons, perceuses ou montres qui ne transitent pas par le port. Le port de Naples, c'est une blessure grande ouverte. Le point final des interminables trajets que parcourent les marchandises depuis l'Extrême-Orient. Ici, tous les jours, les bateaux arrivent, s'engagent dans le golfe et s'approchent de la rade comme des petits attirés par les mamelles de leur mère. À ceci près qu'ils ne viennent pas ici pour téter, mais se faire traire. Pour eux, c'est ici que tout se termine. Pour nous, c'est ici que tout commence.
Un extrait du livre Gomorra de Roberto Saviano, dont nous avons évoqué le nom déjà dans cette émission. Alors, le port, c'est un lieu important pour le commerce légal, mais aussi apparemment pour les trafics en tout genre. Alors, ça n'est pas seulement le cas à Naples, mais ça a l'air d'être particulièrement vrai à Naples.
Tous les ports importants sont souvent des zones... D'ailleurs, toutes les zones de transit, aujourd'hui, les aéroports, notamment, vous savez, aux États-Unis, pendant les années 60-70, l'aéroport Kennedy, c'était vraiment considéré comme, là aussi, une sorte de zone franche contrôlée par la famille Gambino, une des cinq familles mafieuses de New York. Donc, toutes les zones portuaires sont des zones de transit, donc il y a évidemment des possibilités de faire du trafic. Il se trouve qu'à Naples, c'est une tradition depuis au moins... le 19e siècle, et ça s'est accentué surtout avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisque Naples a été un des ports les plus importants du, pour l'approvisionnement des armées américaines en Europe. Et à partir de 1945, ce port a été contrôlé. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas tout à fait la même chose. Je vais pas rentrer dans trop de détails, mais la mafia portuaire qui contrôlait le port n'était pas tout à fait la même que le reste de ces petites mafias dont vous parlez et qu'on voit dans Gomorra. Bref, toujours est-il qu'aujourd'hui, tout cela s'est un peu mélangé, mais pour donner une idée, c'est à un moment, Naples a été la destination d'un des plus grands mafieux de toute l'histoire du XXe siècle, et il s'est installé au port de Naples. Lui ne s'occupait que de l'activité portuaire, il ne contrôlait rien des autres activités
dans la ville. C'est assez compartimenté. Alors on va revenir sur Gomorra et puis sur Roberto Saviano que vous avez l'un et l'autre rencontré dans la suite de cette émission. Gérard Manset, c'était Animal, on est mal sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Ici, c'est moi le plus fort, je suis le numéro 1. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair?
Allez, Marco!
Moi, je les écrabouille, tous ces cafards!
À qui est-ce que vous croyez faire la guerre?
À qui est-ce que vous croyez faire la guerre,
hein? Numéro 1.
C'est moi le numéro 1, Tony Montana!
Le monde est à nous, vas-y!
Le monde est à nous!
Vous savez pas à qui vous avez affaire? Je suis Tony Montana!
C'est moi, Tony Montana, je suis le plus fort!
Eh, c'est ça, Marco, c'est bon. Allez, viens, maintenant.
Les Colombiens, la con. Ils sont partout. T'as vu ça? Ils sont partout, ces Colombiens.
On aurait dit Scarface. Je t'ai trouvé génial.
Le monde entier doit être à nous, tu comprends? Le monde entier doit être à nous.
Extrait du film Gomorra de Matteo Garrone, grand prix du jury au Festival de Cannes en 2008, inspiré évidemment du livre de Roberto Saviano, Gomorra dans l'Empire de la Camorra, qui lui est paru en 2006, hein, ce livre roman enquête qui décrit les détails de la vie souterraine de la Camorra. C'est un livre qui a été très remarqué, qui a été primé, qui a fait beaucoup parler. Qu'est-ce que vous vouliez dire sur cet extrait? Je vous voyais réagir.
Non, c'est un extrait très intéressant parce que vous voyez, il cite de manière extrêmement claire, Tony Montana et Scarface. Et en réalité, c'est amusant parce que il y a eu un moment d'évolution dans les références des jeunes en Italie, mais même aussi en France. Il y a eu pendant très longtemps la génération Scarface, hein, qui était une génération finalement très violente, très bling-bling, si on peut dire, dans le genre crime organisé. Et puis maintenant, on voit apparaître la génération Gomorra. Ouais. Voyez, Gomorra, il y a des chanteurs de rap qui s'en réclament, qui d'ailleurs utilisent le monde est à nous, le monde ou rien, enfin bref, un certain nombre de ces chansons. Et là, c'est moins bling-bling, c'est-à-dire c'est une évolution. On se rend compte quand même que ce monde est absolument dégueulasse. Et donc, on en est moins dans l'exaltation que dans la génération Scarface.
Alors ça, c'est pour votre analyse, hein, Jacques de Saint-Victor. Éric Valmire, deuxième invité de cette émission, journaliste à France Inter. Vous êtes parti en Italie à peu près. Il y a eu une vague de violence à Naples, 2005-2006. Vous êtes arrivé, c'était 2004-2005, vous êtes arrivé juste après.
En 2006,
ouais. Au moment de la parution de ce livre. Vous étiez en plein dedans quand vous débarquez en Italie. Qu'est-ce que, selon vous, ce livre a apporté à la situation? Est-ce qu'il a fait bouger les lignes?
D'abord, ce livre sort et Saviano est le premier surpris par son succès. Bon, il est édité chez Mondadori, qui est un des plus grands éditeurs, mais des livres sur la mafia comme ça, il y en a des centaines sur la place publique.
Ouais.
Des journalistes locaux de la région napolitaine qui en ont écrit. La maison d'édition Chiara Lettere publie régulièrement des dénonciations très étayées, très argumentées sur la mafia. Tout le monde s'en fout. Mmh. Ce sont pas des livres qui se vendent comme des petits pains.
Alors pourquoi celui-là?
Là, personne n'a la réponse.
Il y a quand même une dimension littéraire. Ouais. Pardon. C'est un très beau livre, il faut le reconnaître. Sur le plan stylistique, il y a une mise en scène, une organisation. C'est vraiment un livre littéraire, en plus. Mais il y a d'autres éléments qui expliquent...
Et le film aussi va porter quelque chose. C'est un livre qui est d'abord très économique, contrairement au film. C'est un livre sur l'économie de la mafia. Or, la mafia, elle ne se résume que par l'argent. Et en fait, comme le disait très bien Jacques tout à l'heure, il y a des éléments de communication. Il s'agit de mythifier, de ramener finalement cette histoire à des bandes de petits criminels, de petits caïds locaux qui vont jouer à Scarface, qui vont jouer à prendre le pouvoir. Toute l'imagerie du rap, le jacuzzi, le pouvoir, les bagnoles de luxe et l'emprise sur les jolies filles et toute cette société dite facile. Arriver à une société dite facile. À tel point que Gomorra a été tourné à Scampia, qui à l'époque était le quartier de la Camorra. Et Matteo Garrone n'a pas eu honte de dire que parmi les figurants du film, il y a des gens de la mafia, de la Camorra. Parce que pour pouvoir tourner à Scampia, il a fallu qu'il s'arrange avec les gens du quartier, qui étaient donc les mafieux. Et les mafieux, ils étaient bien contents d'avoir un petit film sur eux, avec eux en plus en vedette, qui leur donnait l'occasion de justement faire leur communication, de mythifier ce qu'ils avaient envie de mythifier, de montrer cette violence de bas étage qui était l'affaire de petit Caïd, et de pas finalement montrer ce qui se passait véritablement au port, parce que le film jamais va au port, jamais va parler justement de la mafia des cols blancs. Et j'en termine pour dire que moi-même, j'ai été piégé. Parce que quand je suis allé en reportage à Scampia, quand Matteo Garrone m'a dit « Va à Scampia, appelle un tel, tu vas voir, tu pourras passer, mais attention, prends un billet », je me suis retrouvé au milieu des mafieux qui étaient là pour attendre que je les interroge sur leur vie, sur comment ça fonctionnait. Tous les mecs faisaient les gays dans les bars d'immeubles. Je devais un peu leur dire bonjour, leur tendre le micro et ils jouaient d'un seul coup aux mafieux tout contents d'eux. Il y avait un piège pour les journalistes. Et plutôt que de faire un reportage finalement sur le making of de Gomorra, j'ai préféré le reportage le tourner comme je vous le raconte là, dire quels étaient les pièges en fait. Ouais. On s'amuse à jouer à Gomorra. Et que vous aviez vu, pardon d'en terminer là, mais c'était un moment important, des journalistes du monde entier qui sont venus à Scampia, qui sont venus et qui ont payé des fortunes des gamins qui disaient « Attends, moi je connais tel mafieux » et qui ont fait des reportages sur n'importe quoi. Parce que les gamins ont totalement utilisé les journalistes en leur créant un mythe sur mesure de la Camorra.
Alors, vous semblez dire que finalement la mafia locale y a trouvé son compte et n'a pas été très gêné. Pourtant, et d'ailleurs vous l'avez rencontré, hein, Roberto Saviano, il est sous protection policière, il semble menacé. C'est en tout cas ce qu'il vous a expliqué quand vous l'avez rencontré en 2008 pour l'émission « Et pourtant elle tourne » sur France Inter. Il vous avait parlé de ses conditions de vie.
C'est très dur, très dur, très dur, même si au début j'avais l'impression d'y arriver. Comme si en fin de compte le fait de ne plus pouvoir se promener, ne plus avoir de maison, vivre dans un univers blindé, ne plus fréquenter personne, ne serait qu'une situation provisoire. Quand tu te rends compte que c'est devenu ton quotidien, c'est comme si on retirait quelque chose de l'intérieur. Le pire, c'est de ne plus avoir de relations humaines et de te méfier de tout le monde. C'est la vérité. En quelque sorte, on perd tout. Je reconnais être devenu un homme terne. Ce sont les choses que t'inflige la Camorra ou la mafia. Ne plus avoir de distractions, d'anniversaires, de promenades. Il n'y a plus de place pour la sérénité. Toujours être attentif, à ne commettre aucun écart. Tu te sens légitime dans ta noirceur parce qu'on ne te parle plus que de vie et de mort. Parce que, par exemple, quand des innocents se font tuer par la mafia, les journalistes te sollicitent et te disent que, si tu n'en parles pas, personne ne le fera dans les médias. Donc il y a vraiment un ensemble de choses qui te rendent plus sombre et obsessionnel. Pour être vraiment honnête avec moi-même et ceux qui m'escortent, je sais avoir écrit un livre qui, est peut-être important pour la conscience collective, mais il n'y a pas un matin où je me demande pourquoi l'avoir fait. N'aurais-je pas pu m'engager d'une façon différente ? Parce que d'un certain côté, je ne croyais pas que toute ma vie serait sacrifiée à ce point-là, et je ne sais plus si tout ça en vaut la peine.
Roberto Saviano, interviewé par vous, Eric Valmire, en 2008. Il est encore menacé aujourd'hui. Il a raison d'avoir peur, Roberto Saviano.
De ce qu'il représente, oui, il peut être menacé. Giancarlo Siani est un journaliste du Matino qui a été assassiné en 86 parce qu'il faisait des papiers très documentés grâce à une gorge profonde sur les agissements de la Camorra. Je crois qu'il est sincère parce qu'il m'a dit exactement la même chose il y a 2 ans dans une autre interview. Je pense qu'il n'a pas mesuré ce qu'il faisait en écrivant Gomorra. Il n'a pas cru que ça allait gâcher sa vie à ce point-là.
Ouais. Jacques de Saint-Victor, en 30 secondes, parce qu'il faut qu'on conclue sur ce thème. Est-ce qu'il y a une porte de sortie ? Est-ce que c'est plutôt en train d'exploser, ces mafias ? Est-ce que c'est plutôt en régression ? Et si jamais il y a moyen de s'en sortir, ce sera par où ?
Non, alors, on s'en sortira pas complètement, parce que comme on peut pas extirper complètement un système mafieux. On peut tondre la pelouse, comme on dit, mais on n'arrivera pas à enlever les racines. En revanche, faut vraiment sortir de la mythification mafieuse, et comme l'a dit Eric Vanier, c'est vraiment important de sortir de ces clichés qui entretiennent le pouvoir des mafias, parce que les mafias vivent sur la peur qu'elles inspirent aux autres. Et puis, hélas, moi je le vois, puisque j'ai voulu en Italie du Sud quasiment tous les mois, ça se renforce actuellement, avec la crise économique, le système mafieux. Vous connaissez les questions, par exemple, des migrants. Ben, ça a été un nouvel appel d'air pour le marché mafieux. Et puis, il y a beaucoup d'autres éléments de la crise que l'on vit actuellement en Europe qui renforcent les mafias. Depuis 2010, elles reprennent le pouvoir qu'elles avaient auparavant.
Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, nous allons retrouver Pierre Josse pour une nouvelle séquence du Temps d'un bivouac.
Que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho? Ah, porque tudo é tão triste? Ah, beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Tall and thin and young. it passes goes by. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes by. So sadly, how can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at he. The girl from Ipanema goes walking, and when she passes, he smiles, but she doesn't see.
Stan Getz, Gilberto Gil et Astrud Gilberto, The Girl from Ipanema sur France Inter. Le temps d'un bivouac, la programmation musicale est signée Djoubaka.
J'aimerais connaître la vraie version des choses, les événements, les histoires.
Sur France Inter.
Alors là, sire, on en a des choses à vous raconter.
Des aventures, plein la musette.
Le temps d'un bivouac.
Du coup, on sait pas bien par quoi commencer.
Une nouvelle séquence dans le temps d'un bivouac. Tous les mardis, en fin d'émission, nous retrouverons Pierre Josse qui aime se présenter comme un train savate planétaire. Bonjour Pierre.
Bonjour Daniel.
Bienvenue à bord. Vous avez beaucoup voyagé par goût personnel et aussi pour le guide du Routard dont vous êtes le rédacteur en chef. Et nous vous avons donc confié une carte blanche. Chaque mardi, vous nous proposerez le récit de l'un de vos souvenirs de voyage qui fait écho avec notre sujet du jour. Et vous avez choisi de nous parler du couvent des Capucins à Palerme.
Bah oui, là on est complètement dans le jus. Pourquoi ? Parce que nos auditeurs à France Inter sont tous des cinéphiles. Ils ont dû voir au moins 2-3 fois Cadavre aux esquis de Francisco Rossi, un film de 1976 qui a été fait 3 ans après l'arrestation de Toto Rigna, donc qui était complètement dans le jus, dans l'actualité. Et donc ces catacombes, c'est un lieu extraordinaire. D'ailleurs, il faut se rappeler le début du film. On voit Charles Vanel, qui représente le procureur Varga, qui descend tout doucement dans la crypte, et il passe entre ces centaines de cadavres accrochés au mur. Alors, faut imaginer une chose, c'est que ces cadavres se sont momifiés, mais à des degrés divers. Il y a encore des lambeaux de chair qui traînent. Il y a des yeux qui pendent au bout des nerfs. Ouais. Il y a des cheveux. Il y en a qui sont presque intacts. D'autres qui ont un visage déjà mortuaire. C'est consternant, c'est crispant, c'est angoissant et en même temps, c'est jouissif.
Ah oui.
Parce que, moi, j'ai résolu mes problèmes de la mort. Au contact de ces cas. Il y en a 8000. Il y en a 8000 et ils sont dans des attitudes complètement grotesques, crispées, les rictus et tout. Et je pense que dans l'idée de Rossi, c'était préfigurer l'idée de la mort. Et ce juge qui se promène, il anticipe presque ce qui va lui arriver. D'ailleurs, je peux livrer quand même parce que je suis pas comme Pierre Murat, je vais pas livrer la fin. Mais là, c'est tout au début. Il sort, il refuse de monter dans sa Mercedes
oui.
avec son chauffeur et ses gardes du corps. Il dit, je vais marcher quand même un petit peu à pied et il se fait dessouder. Voilà.
Alors c'est plus un souvenir cinématographique finalement
oui.
hein, qu'une
et puis
visite.
Un cri d'amour aussi pour Palerme, parce que Palerme c'est pas seulement la crypte des Capucins, c'est le royaume du baroque italien dans sa formule la plus forte, la plus démente. C'est le château des Normands, c'est la chapelle palatine, c'est la cathédrale de Montréal qui est une merveille d'incrustation et de mosaïque sur fond or. Palerme, c'est 4 ou 5 jours. Et puis, un immense respect pour cette ville, ouais. parce qu'il y a des réactions civiques par rapport à la mafia dont il faut parler. C'est-à-dire que, très rapidement, les étudiants se sont rebellés. Un certain nombre de commerçants refusent de payer le pizzo, c'est-à-dire le racket de la mafia, ouais. au point qu'il y a même un guide local de Palerme qui indique tous les commerçants qui refusent le pizzo. Ouais. Et donc là, j'appelle les touristes qui vont à Palerme, faites vous-même un geste civique, ne fréquentez que les hôtels et que les restaurants qui refusent le pizzo. C'est une façon de se solidariser avec le courage des palermitains.
C'est pas seulement la Palerme, c'est toute la Sicile. Toute si la on doit parler aujourd'hui de l'anti-mafia, on dit que la mafia est née en Sicile. Non, l'anti-mafia est née en Sicile. Et elle a ainsi infiltré aussi toutes les autres couches de la société. Ouais. À Corleone, par exemple. Corleone, qu'on dit le berceau de Totorina. Le maire de Corleone n'en peut plus des bus de touristes qui viennent pour voir le bar où prenait son café Totorina. Ouais. Non, c'est l'anti-mafia, bravo.
Je crois que vous vouliez justement
oui,
parler de Corleone.
Il me coupe l'herbe sous les pieds.
Alors, dites-nous.
Non, alors Corleone, alors, paradoxalement, Corleone, c'est le village d'où vient le parrain.
Oui.
Vous savez, et lorsqu'il arrive tout jeune à Ellis Island, il balbutie devant le juge, il n'arrive pas à dire son nom, et le juge lui dit « Bon, très bien, tu viens de Corleone, tu vas t'appeler Corleone ». Et en fait, le film, Corleone dans le film, n'a jamais été tourné à Corleone. C'est une ville assez médiocre, ouais. Qui n'a pas beaucoup de charme. Bien,
oh, quand même.
Hein, et ça a été tourné dans un petit village qui s'appelle Savoca, tout près de Taormina, évidemment un village de rêve, de cartes postales, voyez. Et alors Corleone, vous avez raison, il y a même un petit musée anti-mafia. Et alors, pour l'anecdote, ouais. Si vous voulez spéculer dans l'immobilier, acheter quelque chose à Corleone, parce que la ville est tellement dévaluée en termes d'image qu'il y a quelques années, ils ont même passé une annonce en disant « On va vendre les maisons du village à des prix ridicules pour repeupler Corleone qui a perdu quand même en 50 ans la moitié de ses habitants. »
Merci Pierre Josse, merci pour ces conseils cinématographiques, ces conseils en immobilier. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Chronique Vagabonde, une coédition Hachette Le Routard. Merci et à la semaine prochaine, même endroit, même heure, Pierre. Jacques de Saint-Victor, Un pouvoir invisible, les mafias et les sociétés démocratiques, 19 et 21e siècle aux éditions Gallimard. Et puis Eric Valmire, on vous retrouve pour votre chronique Profession Reporter sur France Inter.
Ah non, pas l'été, non.
Mais à la rentrée?
À la rentrée, si c'est à la rentrée.
Bon, ben voilà. Merci à vous d'être passé par notre bivouac.
Arrivederci.
Arrivederci. Et grazie mille. Officia, vous aussi, je vous embrasse, comme votre parrain.
Demain à 16h, nous remonterons le temps pour partir à la découverte des dinosaures qui, il y a 65 millions d'années, ont foulé notre sol. Et puis à 17h, nous reviendrons sur le voyage qu'a entrepris Jacques Brel aux Marquises à la fin de sa vie. À demain donc pour de nouvelles aventures.